Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Au Vatican aussi, la parole des femmes se libère. Dans le supplément mensuel de l'Osservatore Romano, le très sérieux quotidien du Saint-Siège, une enquête fait la lumière sur les conditions de travail des religieuses. Souvent au service de cardinaux ou d'évêques, ces religieuses dénoncent des rythmes excessifs de travail domestique sans avoir bien souvent leur mot à dire. C'est un vrai tabou qui se lève. Reportage d'Éric Sénanc.
Nous sommes sur la place Saint-Pierre, dont la cloche égrène les heures. Ici, au milieu des visiteurs venus du monde entier, se mêlent les soutanes des prêtres et les habits des religieuses. Elles sont nombreuses, ces femmes venues dans la capitale du christianisme. Certaines étudient la théologie ou la philosophie dans des universités pontificales. Elles enseignent parfois dans des écoles catholiques. D'autres travaillent aussi au service de cardinaux ou d'évêques. Un travail parfois ingrat, voire même à la limite de l'esclavage. L'enquête choc du supplément féminin de l'Osservatore Romano a été reprise dans le monde entier. Son titre, le travail quasi gratuit des sœurs. Ces femmes sont le plus souvent réduites au silence. Sister Mary est une religieuse américaine. Nous la retrouvons dans un café juste à côté du Vatican. Pendant 9 ans, elle a travaillé dans une librairie de livres religieux à quelques mètres des murs du Vatican. Sister Mary est ce que l'on pourrait appeler une féministe. Elle travaille depuis longtemps sur la question de la femme dans l'Église et connaît de nombreuses religieuses qui multiplient les travaux domestiques au Vatican sans rétribution. Pour elle, l'enquête a visé juste car certaines de ses sœurs ont peur de parler.
Une des sœurs que je connais fait le ménage chez un des cardinaux. On s'est vu très récemment, mais j'ai reçu d'elle hier un message très étrange me disant qu'on n'allait plus communiquer via WhatsApp, que c'était une décision personnelle et qu'elle espère que je comprenne. Mais moi, comme religieuse, j'arrive à lire entre les lignes et je sais qu'il se passe quelque chose. J'espère juste qu'on ne l'a pas forcée à couper les contacts avec le monde extérieur suite à cette enquête.
Dans de nombreux cas, les religieuses viennent de pays pauvres, d'Afrique ou d'Amérique latine, souvent envoyées à Rome par leur congrégation. Certaines ont des histoires compliquées, des blessures, et bien souvent elles préfèrent se taire car elles se sentent redevables. Lucetta Scarafia dirige le supplément féminin de l'Osservatore Romano qui a publié l'enquête sur les religieuses. Pour elle, le travail non avouable des sœurs est une réalité connue, en tout cas à l'intérieur de l'Église catholique.
Ces dernières années, nous avons reçu beaucoup de lettres de religieuses. Beaucoup sont venues nous voir, donc c'est une réalité que nous connaissons. Ces lettres, elles viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Italie. Et on en a reçu beaucoup après la publication de l'enquête, des lettres qui nous remerciaient. Il y en a une d'Espagne notamment que j'ai trouvée terriblement triste et dramatique, où les sœurs racontent leurs conditions de vie qui souvent sont très dures. La chose dont elles pâtissent le plus est d'être traitées comme si elles étaient des servantes qui doivent manger de leur côté, ne jamais partager la vie des évêques ou des cardinaux, qui pourtant parlent de famille en évoquant ces religieuses. Mais elles ne mangent pas avec eux, ne leur parlent pas, elles ne partagent rien avec eux. Il n'y a aucun échange humain entre eux.
L'enquête de l'Osservatore Romano soulève aussi le problème de la rétribution. De nombreuses religieuses, en effet, travaillent gratuitement sans compter leurs heures. Bien souvent, aucun contrat ou convention n'a été signé pour établir leurs conditions de travail. Et quand elles sont payées, c'est souvent beaucoup moins qu'un homme d'église. Mais au-delà de ces conditions de travail, c'est toute une vision de la femme qui pose problème. Cela dépasse même les murs du Vatican et concerne toute l'Église catholique. Lucetta Scarafia.
Les cardinaux ou les évêques ne sont pas les seuls à avoir leurs sœurs. De nombreuses institutions font pareil, comme les séminaires. Dans leur majorité, ils vivent grâce au travail des religieuses. Elles font le ménage, la cuisine, elles lavent et repassent le linge des futurs prêtres. Et donc, ces séminaristes apprennent à voir les femmes seulement comme des servantes. Ça va marquer toute leur vie. C'est la dure réalité, mais beaucoup d'institutions sont dans ce cas.
Pour Sister Mary, si les choses ne bougent pas, à commencer au Vatican, c'est bien à cause de la peur.
Il y a une attitude défensive de la part de la hiérarchie face à cette question. Je crois que c'est parce qu'il y a des voix de femmes en colère et elles ont le droit de l'être. Elles sont blessées et elles ont le droit de l'être. Et c'est très difficile pour des hommes de l'entendre. Je pense que beaucoup d'hommes dans l'Église ont peur de nous écouter parce que souvent on les bouscule pour qu'ils réagissent. Mais il faut changer les règles du jeu, sinon l'Église restera déséquilibrée.
Il y a 5 ans, lors d'un colloque sur le rôle de la femme dans l'Église, le pape François avait pris la parole. Il s'était insurgé contre la servitude à laquelle étaient réduites certaines de ces femmes. Si la parole se libère aujourd'hui, le chemin semble encore long pour changer les mentalités.
Cela fait 20 ans cette année que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Au Portugal, pas moins de 3 itinéraires permettent de relier la ville espagnole au départ de Lisbonne, dont l'un passe par la côte. Très fréquenté au Moyen-Âge, ce chemin côtier a pourtant été délaissé, mal entretenu et peu balisé. 10 municipalités du nord du Portugal ont décidé de rénover ce bijou patrimonial au paysage varié et où le sens de l'hospitalité lusitanienne n'est jamais démenti. Marilyn Darcy a fait une partie du pèlerinage au départ de Porto.
La volée de cloches résonne au-dessus de Porto, la seconde ville du Portugal. Le granit des édifices y brille sous le soleil. Sur l'une des collines qui domine le fleuve Douro, la cathédrale est toujours un aimant puissant pour les pèlerins de Compostelle. C'est vers elle qu'ils convergent depuis la consécration de Saint-Jacques au Moyen-Âge. Le chemin côtier qui part de Porto était autrefois l'un des plus pratiqués. Sans difficulté majeure, il était rafraîchi par la brise marine et permettait de plus longues étapes aux bons marcheurs. Le parcours est jalonné de témoignages architecturaux et le riche patrimoine religieux permet de s'imprégner d'histoires et de légendes. À Viana do Castelo, ville portuaire sur le fleuve Lima, la magnifique église de la confrérie de la Miséricorde date de 1526 et mérite un arrêt. L'archéologue Miguel Costa de la mairie de Viana.
L'une des obligations de la Miséricorde, c'était d'accueillir les pèlerins. C'est pourquoi l'hôpital a été érigé ici, et cela montre l'importance de la confrérie au fil des siècles auprès des pèlerins. Il s'agissait aussi de leur distribuer des oboles pour qu'ils aillent prier à Compostelle et revenir. Ils passaient la nuit, avaient droit à une soupe, et ils repartaient le lendemain munis de quelques pièces pour poursuivre leur route. C'était ainsi.
Après Viana, le chemin côtier serpente le long des cours d'eau. Au détour, une chapelle, celle du Bon Voyage, d'où on aperçoit la mer. L'archéologue Miguel Costa.
L'histoire de cette chapelle du Bon Voyage est très intéressante. Après avoir quitté le port de Viana do Castelo, lorsque les navires apercevaient la chapelle que l'on voit depuis la mer, ils tiraient un coup de canon. C'était pour demander qu'on leur souhaite un bon voyage, à l'aller et surtout au retour. Elle date du XVIIe siècle. Le domaine a construit la chapelle en extérieur, c'est original, mais ainsi les pèlerins pouvaient s'arrêter et faire des offrandes.
Faire le pèlerinage depuis les ports portugais jusqu'à Vigo, Galice n'était pas si rare autrefois, mais c'est bien par la terre que Diego, un jeune Colombien, a choisi de rejoindre le sanctuaire de Saint-Jacques, 250 km de marche depuis Porto.
C'est la première fois que je fais ce chemin. Je suis là parce que j'ai lu le livre de Paulo Coelho, Le Pèlerin. Ça m'a donné envie de venir. Comme je voulais venir en Europe, parce que j'avais du temps pour voyager, j'ai décidé de faire le chemin portugais de la côte. C'est vraiment très beau. C'est du temps que je voulais prendre pour moi, mais je suis aussi catholique. Alors c'est un peu comme si j'avais un rendez-vous avec Dieu, on peut dire ça.
Plus au nord, à la frontière avec l'Espagne, Diego pourra choisir de traverser le fleuve en bateau, comme le faisaient les pèlerins d'antan. Le chemin côtier connaît un regain d'intérêt. Mario Rui tient le café central depuis 17 ans dans la petite ville d'Areosa. Le chemin lui apporte de nouveaux clients.
Depuis 2 ans, la fréquentation augmente en raison de la communication qui est faite par la ville et par l'organisme qui gère les chemins. Maintenant, les gens viennent ici pour s'informer, savoir ce que l'on peut voir dans les environs et où ils peuvent s'arrêter pour la nuit. Ils demandent aussi quel est le meilleur itinéraire vers la mer ou les collines. Moi, je conseille les collines car c'est là où se trouvent les villages et donc là qu'ils trouveront les auberges et de quoi manger.
Au café central, on peut tamponner le passeport du pèlerin. Aubergiste, restaurateur, guide, la relance du chemin côtier aurait déjà permis la création d'une 100aine d'emplois, directs ou indirects. Le pari fait par 10 municipalités du nord du Portugal se révèle payant. Aurora Viege, conseillère municipale de Vila Nova de Cerdeira.
Pour nous, c'est un projet différent. Différent parce qu'il fédère une volonté commune de découvrir ce chemin, mais aussi parce que tout au long de l'itinéraire, la signalétique est la même. Nous avons observé les autres chemins et on a bien compris que l'abondance de signaux différents n'était pas efficace. Il fallait au contraire unifier, faire en sorte que les 10 municipalités disposent du même tracé, du même langage pour faciliter l'accès des pèlerins au parcours.
Il aura fallu 10 années pour répertorier tous les accès, identifier le patrimoine digne d'intérêt, puis développer la signalétique. La coordination entre les municipalités concernées par ce chemin côtier a bénéficié du soutien de l'Europe, qui a débloqué 2 millions d'euros pour ce projet.
Une dérive inquiétante en Ukraine. Des milices paramilitaires jouent désormais les supplétifs de la police. Elles se donnent pour mission de garantir l'ordre public dans les rues. Dans un pays en guerre depuis 2014, les formations paramilitaires plus ou moins radicales font partie du paysage. Mais l'une de ces milices inquiète particulièrement par ses dérives nationalistes et populistes. C'est un reportage de Sébastien Gobert.
Sur un ordre de leur chef, ils entrent un à un dans ce petit casino. Sans cri ni violence, ils s'installent. Au vu de leurs visages fermés, de leurs allures athlétiques et de leurs uniformes estampillés Nationalni Drujini, les clients détalent rapidement. Seuls restent, hébétés, les trois employés de cet établissement de Boryspil, dans la banlieue de Kiev. Visiblement, ils sont prêts au pire. Pourtant Maxime, un des jeunes militants, assure qu'il n'y aura pas de violence. Lui et ses camarades se sont juste donné une mission.
Ce casino a perdu sa licence en 2014. Il opère illégalement et la société dont il dépend est liée à la Russie. Elle finance la guerre à l'Est. Alors, il faut le fermer. Nous avons appelé la police et nous attendons.
Nous, ce sont les Nationalni Drujini, traduit par brigade ou milice nationale. Ils sont apparus le 28 janvier pendant une marche dans le centre de Kiev, aux accents des années 30, avec bras levés, flambeaux et drapeaux. C'est la nouvelle formation du régiment paramilitaire ultranationaliste Azov. Celui-ci est né en 2014 de la guerre à l'est du pays et a créé un parti politique et quelques associations. Les nouveaux Drujini créent néanmoins la sensation. Ils se sont fixés pour objectif de garantir l'ordre public en coopération avec la police nationale. Dans le casino, Samson est un autre milicien des Drujini.
Nous pensons que la police a besoin d'aide. La police est une organisation très jeune qui a été réformée il y a moins de 3 ans. Elle n'est pas encore très affirmée.
En vertu d'une loi sur la participation des citoyens dans l'ordre public et la sécurisation de la frontière, des associations peuvent effectivement porter assistance aux forces de l'ordre. Reste la question de la méthode. Pourquoi investir ce casino de manière aussi intimidante? S'agit-il d'une défense de l'état de droit, d'une action patriotique ou d'une pression contre une entreprise privée? Le but est-il de forcer la police à faire son travail? Mais en attendant, les Drujini se développent. Sergi Semenov est un des porte-parole.
À Kiev, nous comptons déjà plus de 200 personnes mobilisables. Nous essayons d'avoir une réserve de 400. En Ukraine, après notre marche du 28 janvier, nous devions être 2000 volontaires.
Tous sont des partisans d'un nouvel ordre ukrainien. Azov et les Drujini sont décriés comme des formations d'une extrême droite dure, avocate d'un nationalisme radical et total, si ce n'est totalitaire. Certains des militants d'Azov sont ouvertement néo-nazis. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme dénoncent les pressions et intimidations qu'Azov et les Drujini ont exercées sur des minorités ethniques, des homosexuels, des étrangers. À Tcherkassy, une ville à 200 km au sud-est de Kiev, les Drujini se sont aussi produits dans une scène hallucinante le 30 janvier. Le conseil municipal n'avait pas réussi à s'accorder sur le budget 2018 pendant des semaines, alors une vingtaine de Drujini ont bloqué les sorties de la mairie jusqu'à temps que les élus débloquent la situation. Yuri Tetrichnik est le chef de la section locale des Drujini. Il ne voit dans son action aucune intimidation.
Nous étions venus défendre notre position citoyenne pour dénouer une situation de blocage du budget. C'est tout. Vous savez, si certains conseillers se sont sentis mal à l'aise, ils n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
Avec une quarantaine de militants bénévoles, Yuri Tetrichnik est à la tête d'une des principales sections régionales des Drujini. En plus du développement des patrouilles de rue, il se réjouit d'avoir reçu une subvention municipale de 2 millions de grivna, environ 60 000 euros, pour le développement d'un stand d'entraînement au tir pour les enfants.
Il faut qu'ils comprennent, dès leur plus jeune âge, que les armes ne sont pas une agression, mais une défense.
À l'en croire, de nombreux parents sont intéressés par l'initiative.
Nous sommes très bien acceptés à Tcherkassy. Vous savez, les réactions négatives à l'apparition des Drujini, cela veut juste dire que les gens ne nous connaissent pas assez. Il nous faut expliquer nos objectifs et multiplier nos actions.
Les inquiétudes persistent en Ukraine sur cette milice ultranationaliste et le nouvel ordre qu'elle voudrait faire respecter dans la rue. Pendant que les autorités hésitent et que la société palabre, eux se développent et l'affirment clairement. Ils n'ont pas besoin du soutien populaire pour agir. Come cycling, just try it and you'll see.
Come cycling, you'll love it just like me. Dans recyclage, il y a cycle. C'est peut-être pour ça que la ville néerlandaise de Zwolle va être la première au monde à disposer d'une piste cyclable en plastique recyclé, Antoine Moutot.
Au départ, la Plastic Road ne se déroulera que sur 30 mètres de long. C'est petit, mais juste assez pour tester l'efficacité et la qualité de cette route d'un nouveau genre. Selon les ingénieurs à l'origine du projet, la pose de la piste en plastique recyclé est 70% plus rapide que pour celle d'une piste conventionnelle. La route serait également 4 fois plus légère qu'une autre. Entièrement préfabriquée, la piste dispose aussi d'un espace destiné à recevoir des câbles et canalisations. Cerise sur le gâteau, une fois usée, la piste cyclable est recyclable à 100%, si l'on peut dire. Au cours de l'automne, une seconde piste en plastique recyclée doit être installée dans une autre région. L'idée sur le long terme étant d'en ouvrir le plus possible dans le pays, ce qui permettra aussi de s'attaquer au problème des déchets en plastique. Voilà déjà plusieurs années que les Pays-Bas tentent des alternatives pour rendre leur piste cyclable le plus efficace possible. Depuis 4 ans, le pays a également réalisé plusieurs pistes pourvues de panneaux solaires pour produire de l'électricité.
Burası Bomonti Sosyal Tesisleri. Ben Deniz, Fahri Başkan Sergen Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Une exposition qui rappelle un temps bien révolu en Turquie, alors que les consommateurs d'alcool se plaignent des prix de plus en plus élevés et des restrictions imposées par le gouvernement. Au musée de la mer d'Istanbul, on peut découvrir les jardins à bière qui florissaient il y a un peu plus d'un siècle, alors symbole de modernité ultime pour les élites ottomanes. Anne Andlauer.
L'exposition est presque un choc visuel. Depuis qu'une série de lois interdit toute publicité pour l'alcool, les noms des marques de bière et autres boissons alcoolisées ont totalement disparu de l'espace public turc, que ce soit dans les magazines, en vitrine des boutiques et des bars, ou dans les festivals et événements sportifs que ces marques sponsorisaient. Mais à la fin du 19e siècle, période où est fondée à Istanbul la brasserie Bomonti, le fil rouge de l'exposition, naissait ici et là, à Istanbul, Izmir ou Ankara, ce qu'on appelait alors des jardins à bière. Impensable aujourd'hui. La bonne société de l'époque, les élites occidentalisées surtout, venaient s'y asseoir en famille ou entre amis, femmes et hommes, le fez vissé sur la tête, autour de grandes tablées parsemées de bouteilles en verre et de chopes bien remplies. Ces jardins étaient nés dans la foulée de la brasserie Bomonti, du nom du fondateur, un Allemand, avec pour objectif d'encourager la consommation de bière, boisson alors peu répandue dans la capitale de l'Empire. L'un de ces jardins à bière est reconstitué à la fin de l'exposition. La bière envoyait une image de modernité, elle était promue comme telle. Selon les archives de l'époque, à la toute fin du 19e siècle, on comptait à Istanbul 33 bars à bière et 6 usines de fabrication, la brasserie Bomonti dominant le marché. L'exposition regorge d'objets et de documents, vieilles bouteilles, verres, chopes, cartes postales, photographies, coupures de presse annonçant un concert ou un après-midi dansant dans un de ces jardins. Ces archives sont issues d'une collection privée vendue en 2009 à Anadolu Efes, le plus gros producteur de bière de Turquie auquel appartient désormais la marque Bomonti. Car la brasserie ottomane a continué de prospérer sous l'ère républicaine, malgré sa nationalisation dans les années 1930, comme toutes les marques d'alcool et de tabac. Le monopole d'État a pris fin dans les années 1960, et l'usine Bomonti n'a cessé de brasser de la bière qu'en 1991. Mais le bâtiment existe toujours, avec sa tour pointue si caractéristique. Les lieux ont été récemment restaurés et abritent désormais un centre culturel, des restaurants et une petite brasserie.
Toute l'équipe d'Accent d'Europe vous dit à demain pour une nouvelle série de rediffusions.